Vous êtes avec SBS French.
Journal des sports, et on commence avec la Formule 1 et cet énorme accident du français Romain Grosjean. Énorme accident, juste deux virages dans le Grand Prix, il a transpercé la barrière, la voiture a complètement explosé. Et c'est sûrement l'homme le plus chanceux du monde. Il s'en sort avec quelques brûlures minimes aux mains et aux chevilles. Le bilan de tout ça avec Thomas de Saint-Léger.
Les images sont impressionnantes, sa monoplace s'est fendue en deux après avoir heurté le rail de sécurité. Elle s'est ensuite embrasée, obligeant Romain Grosjean à s'en extraire en urgence au milieu des flammes. Le Français a ensuite été évacué vers un hôpital. Il souffre a priori de brûlures légères. La course, bien sûr, a été arrêtée, elle a repris. Et c'est comme souvent le Britannique Lewis Hamilton qui s'est imposé au volant de sa Mercedes.
Thomas de Saint-Léger donc pour la Formule 1. Et vous l'aurez compris, c'est donc Lewis Hamilton qui remporte ce Grand Prix de Bahreïn, prochain Grand Prix, même endroit, sous un nom différent, la semaine prochaine, donc dimanche prochain, sans Romain Grosjean qui a dû être remplacé, on le comprend très bien. Allez, on parle maintenant de rugby et aussi un bel hommage à Christophe Dominici, ce super joueur français qui nous a quitté la semaine dernière. Retour sur l'homme Christophe Dominici avec Cédric de Oliveira.
Christophe Dominici a pris le ballon, il l'a passé, c'est français, essai de Christophe Dominici, c'est un génie,
essai, oui, extraordinaire.
L'exploit est resté dans les mémoires, c'était un jour d'octobre 1999, la France affronte la Nouvelle-Zélande en demi-finale de Coupe du Monde, l'un des plus beaux matchs de l'histoire, et Christophe Dominici se faufile dans la défense des tout-puissants All Blacks pour inscrire un essai sublime, le fait d'armes le plus célèbre de l'ailier aux 67 sélections, lancé en équipe de France 18 mois plus tôt par le sélectionneur de l'époque, Jean-Claude Scrella.
C'était un très très grand joueur, quoi. On jouait en rugby total, quoi, avec beaucoup de mouvements. C'était un leader de ce jeu-là, une intelligence sur le terrain qui était exceptionnelle. Il tirait tout le monde vers le haut, quoi. Christophe était un leader sur le terrain. Il ne s'exprimait pas beaucoup, mais de par l'exemple qu'il donnait, les autres suivaient. Bon, c'était un gagneur.
Dominici a beaucoup gagné dans sa carrière. 5 fois champion de France avec le Stade français, 4 fois vainqueur du tournoi des 5, puis 6 nations avec les Bleus. Le funambule a réussi à mener une carrière extraordinaire malgré un gabarit modeste. Un homme au caractère bien trempé qui ne laissait personne indifférent sur le terrain comme en dehors. Ailier lui aussi, Cédric Emmons, qu'il a croisé lorsqu'il portait le maillot bleu, se souvient.
Christophe était un garçon qui rassemblait, qui ne tirait pas la couverture à lui. C'était vraiment le joueur qui voulait avoir toujours du monde autour de lui. Moi, j'ai démarré plus tard en équipe de France, mais c'est vrai qu'il était inspirant comme garçon, il était passionné. Et ce n'était pas le plus grand gabarit, avec son 1m75, il était capable de défier des joueurs comme Lomu, donc il était forcément inspirant et on avait envie de faire ce qu'il faisait.
Retraité des terrains à 36 ans, Dominici empruntera ensuite un parcours plus sinueux. Éphémère entraîneur adjoint du Stade français, il avait tenté récemment de racheter le club de Béziers qui évolue en Pro D2. Sans succès, sa disparition soudaine à 48 ans a provoqué un vif émoi. C'est tout le rugby et même le sport français qui perd l'un de ses plus beaux ambassadeurs.
Cédric de Oliveira. Allez, on va parler maintenant de football et on revient sur le décès de Diego Maradona. Et une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa mort. Hugo Moissonnier.
Qu'en Argentine, peut-être le début d'une affaire Maradona. L'enquête sur les causes du décès avance. Le drame aurait-il pu être évité? Aujourd'hui, son médecin, Leopoldo Luque, a été mis en examen pour homicide involontaire. Georges Quirino, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Buenos Aires pour RFI et la nouvelle a fait l'effet d'une bombe aujourd'hui en Argentine.
Exactement, et elle fait la une. Des perquisitions ont eu lieu au domicile et à la clinique du docteur Leopoldo Luque. Les enquêteurs ont récupéré des documents, des ordinateurs, des téléphones, toute l'information autour de la santé du PBDORO. La justice cherche à savoir s'il y a eu une négligence médicale. Tout a été déclenché vraiment par les doutes des filles de Maradona entendues par la procureure la nuit dernière. Le médecin, très ému, s'est exprimé tout à l'heure à son domicile pour ce qui pourrait être une longue affaire. Écoutez-le.
Je vais être à disposition de la justice à 100%, mais ce que j'ai fait avec Diego,
pour Diego jusqu'au dernier moment. Je peux tout montrer. Je suis absolument sûr d'avoir fait le mieux possible avec Diego. Les choses qui se disent, je ne peux même pas les lire. Moi, je suis triste parce que mon ami est mort. Une personne que j'ai accompagnée jusqu'au dernier moment, parce que c'est ce qu'il voulait.
Hugo Moissonnier, un autre footballeur qui est décédé. Décidément, c'est vraiment la loi des séries. C'est Papa Bouba Diop. Vous vous en souvenez peut-être, Papa Bouba Diop, ça a été le premier buteur de la Coupe du Monde de 2002. Pourquoi on s'en souvient? Puisque c'était contre la France. Et le premier but donc du Sénégal contre la France, il avait 42 ans. Thomas de Saint-Léger.
Papa Bouba Diop, c'était un roc, 1m94, un joueur habile aussi, l'auteur d'un but historique à la Coupe du Monde 2002 contre la France. Ce tacle à bout portant, synonyme de victoire 1-0 pour les Lions de la Teranga face aux champions du monde en titre. Il avait récidivé quelques jours plus tard contre l'Uruguay en marquant deux fois finaliste de la CAN en cette même année 2002. Bouba Diop avait aussi brillé en club, vice-champion de France avec Lens et vainqueur de la Coupe d'Angleterre avec Portsmouth, l'hommage d'un ancien coéquipier, un autre lion célèbre, El Hadji Diouf.
Je dirais qu'un lion ne meurt jamais. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le pays, merci pour tout ce qu'il a fait pour le continent, et on ne l'oubliera jamais. Pour moi, ce n'était pas un ami, c'était un frère, parce que j'ai eu la chance de partager le club avec Papa Bouba Diop à Lens et avec l'équipe nationale.
Thomas de Saint-Léger. Allez, le point sur le Vendée Globe Challenge. On sait qu'il y a quatre bateaux qui ont maintenant été détournés pour aller aider un des bateaux en détresse. Le point sur la course en elle-même avec Sylvie Berruet.
La voile, le troisième du Vendée Globe, est en grande difficulté.
Et oui, Kevin Escoffier a dû quitter son bateau car celui-ci a été victime d'une importante voie d'eau. De l'eau est entrée dans son bateau. Il se trouve donc, Kevin Escoffier, sur un radeau en attente d'être secouru. Et il a demandé au concurrent le plus proche de venir l'aider. Donc c'est le quatrième, Jean Lecam, qui est arrivé le plus vite auprès de Kevin Escoffier. Mais l'opération s'annonçait très délicate en raison d'une mer agitée.
Il y a un dernier mot de sport avec le match et le retour de Mike Tyson sur les rings, comme nous l'explique Loïc Piala.
La soirée a eu des petits airs de concert de hip-hop. Entre les combats, Wiz Khalifa, French Montana, St. John se sont succédés dans un Staples Center vide, sans oublier Snoop Dogg, local de l'étape. Une légende du rap avant deux légendes du ring, logique. Son joint, fumé en direct à la télévision, a rappelé aux téléspectateurs qu'il regardait bien une exhibition. Mike Tyson est arrivé sur le ring sans fioritures. Il avait ressorti sa tenue habituelle, un short noir et court et des chaussures sans chaussettes. Le poids lourd n'a pas changé de style non plus 15 ans après son dernier combat. Cette garde haute, ses jambes montées sur ressort, cette pression incessante. Iron Mike, 50 kilos de moins sur la balance pour l'occasion, s'était bien préparé. En face, Roy Jones Jr. s'est souvent accroché pour limiter les coups. L'ex-champion du monde dans 4 catégories a aussi pris des risques.
Je voulais vraiment faire le spectacle. Je voulais gagner aussi, mais le spectacle, il le fallait pour le public. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne normale serait stupide de faire face à Mike Tyson avec les mains baissées, mais c'est le style Roy Jones, donc je l'ai fait. Organiser un événement comme celui-là pendant une pandémie, ça a permis aux gens de penser à quelque chose de positif.
Le combat entre les deux quinquagénaires a parfois été un peu brouillon. Du coup, Snoop Dogg, qui commentait, s'est autorisé une moquerie.
On dirait deux de mes oncles qui se tapent dessus à un barbecue.
Pour s'adapter à l'âge des participants, les rounds duraient 2 minutes au lieu de 3. 8 rounds largement dominés par Mike Tyson, même si les juges ont vu un nul. Qu'importe.
Loïc Piala pour RF. Et pour conclure ce journal des sports, on va parler de handball, coup d'envoi de l'Euro féminin, Hugo Moissonnier.
Coup d'envoi de l'Euro féminin de handball, il sera donné jeudi au Danemark. 16 pays en lice, notamment la France, tenante du titre, mais elle reste sur un fiasco. Lors du Mondial 2019, au Japon, elle avait terminé 13e. Alors il faut se relancer avant les JO au Japon également, avec Siraba Dembélé, capitaine et hier de Bucarest. Elle n'était pas au dernier Mondial pour cause de maternité, mais elle est en interview avec Christophe Diramsian.
Après une longue pause, on a toujours un certain enthousiasme, une certaine impatience de revenir au plus haut niveau, de reprendre la compétition, de revivre des émotions. Donc oui, cette compétition va être belle à vivre.
C'est un contexte sanitaire quand même assez compliqué. La Norvège s'est retirée de l'organisation de l'Euro et puis l'étape de Golden League a été annulée. Ça vous fait autant de matchs de préparation en moins, c'est pas un handicap quelque part?
Non, parce qu'on se retrouve aussi à la maison du handball pendant 10 jours où on peut très bien travailler sans se mettre la pression du match, des matchs amicaux, se dire bon ben on sait pas comment ça va se passer. Donc là je trouve que c'est bien, c'est un moment pour nous, on est tout seul, voilà, on travaille, on peaufine les affinités, et on essaie d'arriver le plus près possible à la compétition. Donc je pense que c'est aussi une bonne chose.
Hugo Moissonnier, voilà pour le sport pour aujourd'hui. Vous écoutez Le Français, vous êtes sur Radio SBS.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.